Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission culturelle Culturez-vous sur IDFM Radio. Je suis très heureuse de vous retrouver pour mettre à l'honneur la culture sur le 98 de la bande FM. Je reçois aujourd'hui un jeune humoriste, Hugo Pêcheur, qui a plusieurs cordes à son arc. Hugo est comédien, chroniqueur radio, professeur de théâtre, chauffeur de salle et stand-upper. Ses passions pour la scène et l'humour sont omniprésentes. Nous démarrons l'émission par un portrait de l'artiste qui, comme vous le découvrirez, est francilien d'adoption depuis environ 3 ans. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter une chanson chère à Hugo Pêcheur, car elle l'a accompagné pendant ses nombreux séjours à l'étranger et le réconfortait lorsque la France lui manquait. Dans la deuxième partie de l'interview, nous aborderons l'actualité d'Hugo et ses nombreuses activités à venir. Nous clôturons l'émission avec des idées de sorties culturelles valdoisiennes. Nous démarrons tout de suite par le portrait de l'invité de Culturez-vous. Bonjour Hugo Pêcheur, je suis enchantée de vous accueillir sur les ondes d'ITFM Radio. Alors, vous n'êtes pas originaire d'Île-de-France puisque vous venez de Bagnols-sur-Cèze, donc dans le Gard.
Oui, c'est ça.
Ou B16, il me semble, comme les jeunes aiment l'appeler là-bas.
Oui, c'est ça, on aime bien dire B16, c'est plus court à écrire aussi.
Dites-nous, Hugo Pêcheur, ce qui vous a donné envie de quitter votre région natale pour devenir un francilien d'adoption.
J'ai toujours voulu monter à Paris parce que moi depuis que j'ai 8-10 ans, je veux être comédien. Parce qu'à cette époque-là, j'ai commencé à regarder des spectacles d'humour avec Gad Elmaleh, Franck Dubosc, etc. Et aussi beaucoup de films. Quand on vit à la campagne et qu'on n'a pas grand-chose à faire et qu'on est dans un tout petit village, ben on regarde beaucoup de films. Moi, c'était Dujardin, Belmondo. Et je me rappelle, un jour, j'avais regardé Le Professionnel avec ma mère. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Très vite, j'ai voulu faire les cours Florent. Parce que Gad Elmaleh, c'était mon idole et il avait fait les cours Florent. Et aussi parce que à côté de Bagnols-sur-Cèze, il y a un petit village qui s'appelle Lau dans l'Ardoise. Et de ce village est originaire Malik Bentala. Et Malik Bentala, c'est un mec qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un qui m'a prouvé qu'on pouvait venir d'un tout petit patelin et qu'on pouvait faire de grandes choses. Et donc moi je me suis dit, Malik Bentala il a fait les cours Florent, Gad aussi, donc je vais monter à Paris dès que je peux et je vais faire les cours Florent.
Comment cette passion pour la comédie, le stand-up et l'improvisation est-elle née?
Au début j'étais plus attiré par le one-man show, quand mon père me faisait découvrir des humoristes, parce que c'est comme ça, quand on est petit c'est nos parents qui nous font découvrir des humoristes, c'était Eli Kaku, donc c'était du one-man. Moi après j'ai commencé grâce à YouTube, à regarder tous les sketchs que je pouvais trouver sur internet, notamment le Montreux, puis grâce à Netflix qui propose beaucoup de spectacles, j'ai pu découvrir le stand-up américain, le stand-up anglais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'ai commencé à faire quelques scènes. Je me suis rendu compte que l'improvisation est hyper, hyper importante parce que déjà, on sait jamais sur quelle salle on va tomber. Et il faut savoir rebondir sur tout ce qui se passe et dans la seconde qui suit. Et donc moi, c'est très récent, c'est que depuis septembre où j'ai mon propre comedy club. Du coup, c'est moi qui chauffe la salle. Et donc depuis septembre, je me suis mis à faire de l'impro pendant 10 minutes. Et petit à petit, je sens que je m'améliore, que j'ai un meilleur relationnel avec le public. Et ça me sert beaucoup pour mes passages parce que le stand-up, c'est pas du théâtre. C'est l'instant présent, il faut être soi-même le plus possible, alors qu'au théâtre, on va se cacher derrière un personnage. Moi, quand j'ai commencé le stand-up, j'étais trop au théâtre. C'est-à-dire que j'arrivais sur scène, je fabriquais quelque chose et j'oubliais d'être moi-même. Et donc là, grâce à l'improvisation, de l'improvisation plutôt classique ou un peu plus originale, en établissant un lien de confiance avec le spectateur, j'ai pu être plus facilement moi-même. Je me suis rendu compte que mes blagues, que mes textes, je les délivrais d'une façon beaucoup plus naturelle.
Quel a été votre parcours et comment est-ce que vous vous y êtes pris pour faire de votre passion votre métier, Hugo?
Tout d'abord, j'ai fait un parcours très classique. C'est-à-dire que j'ai fait un collège, lycée, bac, et j'ai fait entre guillemets, vraies études. Parce que mes parents, c'était un peu le contrat avec mes parents. Si j'ai un diplôme, je pourrais me lancer dans ma carrière de comédien. Et moi, je suis quelqu'un de très famille. Donc, avoir le soutien de mes parents, c'était quelque chose de primordial. parce que je sais qu'aujourd'hui, si mes parents ne me soutenaient pas, déjà, je m'en serais pas sorti financièrement au moment du Covid, et que leur soutien moral est hyper important pour moi. Où j'ai fait un master, et après donc je suis parti à Paris au cours Florent, où j'ai fait 2 ans de cours Florent. J'ai pas fini les cours Florent pour 2 raisons. Il y a eu une pandémie qui est arrivée à peu près 6 mois après que je me sois lancé dans mon rêve. Et puis au cours Florent, il y a certaines choses, certains discours qui ne m'ont pas plu, qui n'étaient pas en accord avec ce que je pense de ce métier. Donc j'ai préféré partir. Ils ont voulu casser ma singularité. En fait, moi, je suis arrivé avec un accent, je suis arrivé avec un phrasé, je suis arrivé avec une façon de voir les choses et de voir le monde différente des autres des élèves de ma classe, par exemple. Et ils ont voulu casser tout ça pour faire des clones. Et donc, j'ai voulu apprendre par l'école de la vie, c'est-à-dire faire mes scènes tout seul, chercher mes scènes tout seul, aller jouer à droite à gauche, en province, à Paris, enfin, vraiment j'ai joué dans des cages, j'ai joué dans des chichas, j'ai joué dans des bar mitzvahs, j'ai vraiment joué de partout, quoi, pour se motiver à faire ce métier, parce que c'est un métier qui est très dur, c'est très dur pour le moral. Moi, je me suis lancé donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en septembre 2019. Je vais tout juste aujourd'hui commencer à être intermittent, tout juste grâce à la radio. Et bon, il y a eu une pandémie entre temps qui a tout stoppé. C'est très dur. Et il faut savoir qu'on est très seul. Même si on est tout le temps entouré de plein de gens, on est tout seul en fait. On est tout seul. Mais moi, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se lancer, c'est vraiment de fonctionner par palier. Parce que voilà, moi, comme tout le monde, quand je me suis lancé, je me suis dit, allez, vas-y, je suis drôle. Dans 1 an, je suis à Montreux. Dans 2 ans, je fais l'Olympia. Et dans 3 ans, je pars au States. Non. Tous les humoristes te disent que pour construire une carrière, il faut au moins 6-7 ans. Il faut au moins 6-7 ans parce qu'en fait, c'est un métier. Il faut faire ses premiers pas, trouver son rythme, trouver son personnage scénique. Parce que oui, tout à l'heure, je parlais du fait qu'il faut être soi-même. Mais il faut on parle aussi de personnage parce que tous les humoristes que vous voyez sur scène sont eux-mêmes. Mais ils tirent une partie de leur personnalité. En fait, ils arrivent à trouver leur personnalité, l'aspect drôle de leur personnalité pour le tirer et en faire un personnage scénique. Mais ils restent eux-mêmes.
En 2020, Hugo Pêcheur, vous avez écrit et interprété un premier spectacle intitulé « Un beauf is born », qui signifie « Un beauf est né » en français. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de ce spectacle et est-ce que vous avez pris plaisir à le jouer sur scène ?
Alors, l'histoire d'un beau fils born, elle est assez marrante et assez formatrice. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier, je me disais, dans 2 ans, je suis à Montreux. Et en fait, du coup, je me suis dit, en 1 mois et demi, je vais écrire un spectacle. Et en fait, moi, une de mes premières scènes, j'avais gagné un concours dans le Sud, au Grand Challenge de l'Humour à Alès. Et il y avait une personne d'un théâtre à Avignon qui avait vu mon passage, qui avait adoré et qui m'avait demandé si j'avais un spectacle. À l'époque, j'avais que 5 minutes, donc j'avais dit oui, bien sûr, j'ai un spectacle. Et 3 mois après, je jouais chez lui mon spectacle à Avignon. Donc c'est un spectacle qui a été écrit en 2-3 mois, quoi. La moitié n'avait même pas été jouée sur scène. Et au final, c'était drôle, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire sur scène. Je faisais beaucoup de persos, qui me faisaient marrer, mais il n'y avait pas forcément de fond dans ce que je racontais. Et voilà, en fait, j'avais pas creusé vraiment ce que je voulais raconter. Par exemple, tout à l'heure, on discutait en off du fait que moi, la différence entre Paris et la province, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration parce qu'en fait, je me rends compte que Paris est un pays dans un pays. Et moi, j'ai été éduqué à la campagne. Et quand je suis arrivé ici, en fait, je me suis rendu compte que j'étais perdu. C'était la jungle pour moi, en fait, ici. J'avais pas les codes sociaux, j'avais rien. Il fallait tout réapprendre. Et donc, ce spectacle a été écrit dans mes premiers mois après Paris. Donc, Un beauf is born. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé à Paris, juste parce que j'avais un accent, les gens m'ont collé une étiquette de beauf sur le front. Et ça m'avait vachement chagriné à l'époque. Et donc, je me suis dit, on va en rigoler. Sauf que, au final, dans ce spectacle, je détruisais pas l'image des beaufs. En fait, je montrais mon côté beauf. Donc, je me rendais pas du tout service. Et il faut savoir que ce spectacle n'a été joué du coup que 3 fois. J'ai tout jeté, je suis reparti à zéro.
Vous aimez aussi les voyages, Hugo Pêcheur. Quelle place cette passion prend-elle dans votre vie et quels sont les plus beaux souvenirs de voyage que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui?
Oula, on pourrait parler pendant 3 heures. Alors moi, les voyages, en fait, je trouve ça primordial dans la vie, même si c'est vrai que depuis que je me suis lancé, il faut savoir que j'ai toujours énormément voyagé. Je pense que je vais pas vous énumérer tous les pays dans lesquels je suis allé, mais depuis que je fais ce métier, c'est ma plus grande frustration. Je n'arrive pas à voyager. Bon, alors il y a eu une pandémie mondiale, hein, bien sûr, mais l'été dernier j'aurais pu voyager. Là, je pourrais voyager en ce moment, pas en Ukraine, mais je pourrais voyager un peu de partout. Mais je le fais pas parce qu'en fait, je me mets tellement de pression sur ma réussite que quand je me dis, je pars une semaine aux Canaries, en fait, je me dis, c'est une semaine où tu ne travailles pas. Et je culpabilise et je n'arrive pas à prendre de plaisir en vacances. Donc j'essaie de me défaire de cette mentalité-là parce que je n'arrive pas à prendre plaisir tant que je ne travaille pas. C'est un espèce de sadomasochisme de hard worker. Mais le voyage, en fait, je sais au fond de moi que c'est hyper important pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que on rencontre des gens extraordinaires, on mûrit. On se rend compte que ce qu'on voit à la télé, c'est pas forcément vrai. Ça nous permet aussi de déconstruire qui on est et de déconstruire un peu ce que c'est que d'être français. Parce que on a tendance à penser que plus aspect positif comme négatif. Des fois, on a tendance à penser que notre vie, c'est de la merde. Et quand on voyage, on se rend compte que ici, franchement, on est bien loti. Et inversement, on a tendance à penser aussi que notre vision de pensée est là forcément la bonne. Et quand on voyage, on se rend compte que on devrait peut-être changer un peu notre façon de penser, notre façon de voir les choses et de voir la vie. Mais voilà, moi j'ai eu la chance de faire un Erasmus. Je suis parti pendant 10 mois vivre vraiment dans un autre pays. Parce qu'il y a voyager, il y a vivre dans un autre pays. Je payais mon loyer dans un autre pays. Je fréquentais des gens dans un autre pays. Je travaillais avec des gens qui ne parlaient pas ma langue et qui n'avaient pas la même vision des choses. Mais voilà, les voyages, c'est hyper important. Et alors, un souvenir de voyage, tiens, je pourrais vous raconter des tonnes et tonnes de souvenirs quand je suis parti sur la mer Baltique, la Guadeloupe, parce que je trouve que la Guadeloupe, c'est la plus belle île du monde. Grâce à mon Erasmus, j'ai été en relation avec une étrangère pendant plus de 6 mois. Donc c'était très bizarre parce qu'elle était italienne et moi français, mais on se parlait en espagnol. Donc déjà, et quand on se comprenait pas, on se parlait en anglais. C'était vraiment. Des fois, il y a aussi les mimes parce qu'en fait, moi, je parlais pas italien et elle parlait pas français. Bon, aujourd'hui, maintenant, elle m'a appris à parler italien, mais je ne sais rien te dire. Je peux t'insulter en italien, mais je ne pourrais pas entamer une discussion avec toi.
Est-ce qu'il y a une chanson que vous affectionnez particulièrement, Hugo, et qui est en lien du coup avec les voyages, ou une chanson que vous avez découvert à l'occasion d'un voyage?
Alors, il y en a deux. Bien sûr, pour moi, la chanson Road Trip Voyage, c'est Naman, House of Love. Être avec sa voiture, parcourir les routes avec cette musique, c'est exceptionnel. Mais sinon, il y a aussi une chanson de Xavier Rude, Follow the Sun, qui moi aussi m'a accompagné parce qu'elle est à la fois belle, mélancolique. Et j'adorais cette chanson quand j'étais à l'étranger, que j'avais le mal du pays. Follow the Sun, suit le soleil, elle me parlait, elle me transportait.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite sur IDFM Radio. Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Thank you.
Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight, when you feel this crazy society adding to the strain, stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say?
Vous êtes toujours sur IDFM Radio et je suis en compagnie du jeune humoriste Hugo Pêcheur. Hugo, vous êtes également chroniqueur radio sur Radio J, qui est une radio parisienne communautaire juive qui a été créée en 1981. Elle partage sa fréquence avec Radio Shalom et RCJ. Vous intervenez dans la matinale et puis vous avez aussi une autre chronique culinaire. Alors, est-ce que vous pouvez décrire à nos auditeurs quel est votre rôle et le style de vos chroniques ?
Là, on peut me retrouver donc le lundi à 15h30 dans l'émission de Cyril et Sarah Cohen, où en fait elle reçoit chaque semaine des invités. En général, ce sont des artistes et moi, je reçois la veille leur plat préféré et je dois préparer une chronique où je les cuisine à la sauce de leur plat préféré. Et sinon, les mercredis et jeudis, je suis à 7h40 dans la matinale. Donc là, je suis fatigué, parce que c'était ce matin. Et donc, je me lève très tôt. Mais c'est super, la matinale. J'adore vraiment la matinale. Moi, petit, c'est pareil, en allant à l'école le matin, j'écoutais la matinale, j'écoutais RTL avec ma mère à la radio en allant à l'école. Et aujourd'hui, j'écoute les chroniques de Philippe Cavrivière sur RTL, je me régale. C'est un véritable exemple que je suis, parce que je le trouve très drôle. Alors, mon univers, mon style, je me définirais un peu comme un bobof. C'est-à-dire que j'aime bien mélanger une pensée philosophique avec un phrasé de bourrin, quoi. Et j'aime bien critiquer la société, mais le dire avec des mots de bon franchouillard, quoi. Je trouve que le décalage est assez intéressant. Voilà, je ramène souvent, je fais souvent intervenir mon père. Je parle de mon éducation paillarde, un peu. Je parle de politique, l'actu. Vraiment, je traite l'actu. Quand on a des candidats comme Pécresse et Hidalgo qui nous servent des blagues sur un plateau. Des fois, on n'a pas besoin de se fouler, donc c'est super.
Hugo Pêcheur, quand on pense à vous, on vous associe spontanément à un autre humoriste, Jérém Rasch, qui est actuellement sur scène à la Divine Comédie à Paris. C'est d'ailleurs là que je vous ai connu il y a quelques jours, puisque vous assuriez sa première partie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre collaboration avec Jérém Rasch ?
Alors, sacré Jérém. Alors, Jérém, c'est un des êtres humains que j'aime le plus sur Terre. C'est quelqu'un de... Tout à l'heure, je vous disais qu'on a très peu d'amis dans ce métier. Et Jérém en est un. Moi, quand je suis arrivé sur Paris, tout à l'heure on en parlait, j'étais perdu, j'étais au milieu de la jungle. Prendre un métro, pour moi, c'était un effort surdimensionné. RER, pour moi, c'était, j'avais besoin de mon passeport. Je me disais, est-ce qu'on a besoin de faire ces vaccins pour prendre le RER? Le Val d'Oise, c'est quoi? Je suis pas vacciné contre le typhus, hein. Est-ce qu'on peut aller dans le Val d'Oise? Et Jérém, il a vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et donc, il m'a tout de suite pris sous son aile. Il m'a énormément aidé, conseillé, aiguillé. Et même hébergé à des moments où j'avais pas de thunes. Aujourd'hui, du coup, je fais ses premières parties à chaque fois de son spectacle. Quand il part en tournée, en général, il m'embarque dans ses premières parties. Et Jérém, voilà, c'est une personne avec qui j'adore discuter, j'adore me confier, j'adore travailler. Même Radio J, tout à l'heure on disait que je travaillais chez Radio J. Au début, c'est Jérém qui travaillait chez Radio J et Cyrielle Sarah Cohen cherchait d'autres humoristes et il m'a conseillé, je lui dois énormément.
Il y a un lieu parisien que vous appréciez tout particulièrement, il s'agit de l'Atelier Montmartre, situé 6 rue Burke dans le 18e arrondissement. Quel est votre lien avec l'Atelier Montmartre et peut-on vous y rencontrer?
Moi, c'est un peu grâce à Montmartre que je suis tombé amoureux de Paris. Parce que Paris, je trouvais ça joli, bien sûr, sympa. Mais en allant me balader à Montmartre régulièrement, je me suis vraiment rendu compte que c'est un village pour moi, Montmartre. Et moi, c'est ce qui me manquait à Paris, c'est ce côté village. Parce que moi, je suis un villageois. Hein, et en me baladant dans Montmartre, j'ai retrouvé ce côté village. Et j'ai commencé à avoir mes petits lieux, mes petites habitudes, et notamment l'Atelier Montmartre, qui est un lieu que j'adore beaucoup. À l'Atelier Montmartre, il faut savoir qu'il y a une cave. Il y a une cave, et un jour, je me suis dit, mais il faut que j'organise des comédie clubs ici. Et donc, depuis octobre, j'organise des comédie clubs tous les jeudis à l'Atelier Montmartre, à 20h30. Alors, on a une vingtaine de personnes qui sont là tous les jeudis. Et donc moi, tous les jeudis, je ramène 5 nouveaux humoristes qui viennent faire un extrait de leur spectacle. Et moi, tous les jeudis, je dois tester un nouveau sketch.
En parallèle de votre activité d'humoriste, vous êtes également professeur auprès de jeunes franciliens puisque vous donnez des cours d'impro et de comédie à des enfants de Gennevilliers et de Rosny-sous-Bois. Est-ce que la transmission de votre savoir-faire et de votre passion sont importants pour vous?
C'était très enrichissant et c'est très enrichissant comme expérience. Ouais, il faut savoir qu'avant d'être comédien, moi j'avais le BAFA. Donc moi j'ai toujours adoré travailler avec les plus jeunes. J'adore donner des cours aux enfants, leur donner le premier pied à l'étrier. C'était vraiment leur dire venez en écrire un sketch et à la fin de la semaine vous le jouez devant moi. Trouver des vannes, trouver des sujets, la règle des blagues en trois temps, le comique de répétition, etc. Et c'était très enrichissant, quoi. Et c'était très très jouissif de voir des jeunes de cité qui pendant leurs vacances scolaires se levaient à 9h du matin pour venir écouter mes conseils.
Quelle est votre actualité dans les prochains mois, alors que ce soit sur Paris, donc la région parisienne, ou même dans le sud de la France?
Là, il y a le spectacle qui devrait être bientôt prêt et que vous pourrez trouver, bien sûr, au Festival Avignon tous les lundis, mardis, mercredis à 19h au théâtre L'Autre Carnot. Sinon, vous pouvez me retrouver tous les jeudis à 20h30 au Plouf Comedy Club à l'Atelier Montmartre. Et sinon, bien sûr, sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Hugo Pêcheur, je poste des extraits de scènes, des extraits de mes chroniques. J'essaie de publier au moins 2 fois par semaine.
Et pour finir, Hugo Pêcheur, est-ce qu'il y a un rêve en particulier que vous souhaitez réaliser?
Alors bien sûr, j'aimerais faire l'Olympia un jour. C'est un de mes rêves. Mais je vise en grand. Le seul humoriste qui a réussi à faire le Stade de France aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bigard. Et je me dis, pourquoi pas faire le Stade Vélodrome? Voilà, moi je suis supporter de l'OM, donc faire le Stade Vélodrome. Je pense au cinéma, faire un film. Je suis aussi scénariste, j'écris des scénarios. Donc pourquoi pas réaliser un de mes projets qui est en cours d'écriture ou qui sont déjà écrits, pour faire entendre ma plume d'une autre façon que sur scène. Ce serait un rêve.
Eh bien, je vous remercie infiniment, Hugo Pêcheur, d'avoir été mon invité ce samedi dans Culturez-vous.
Merci à vous et à très vite.
Vous Vous êtes toujours sur IDFM, votre radio valdoisienne préférée. Vous avez jusqu'au 4 avril pour découvrir Hugo Pêcheur à la Divine Comédie, située 2 rue Saulnier dans le 9e arrondissement de Paris, le mardi à 19h30, où il assure la première partie de l'humoriste Jérém Rache, que Christophe, notre cher Christophe, recevra la semaine prochaine dans la matinale. Vous pouvez aussi vous rendre le jeudi soir à l'atelier théâtre de Montmartre pour interagir avec Hugo, dont le don de l'improvisation se révèle chaque semaine. Si vous voulez écouter les chroniques d'Hugo, c'est sur Radio J en direct ou en podcast. Et si vous descendez dans le sud en juillet ou que vous adorez vous rendre au Festival d'Avignon pour découvrir de fabuleux artistes, ne manquez pas Hugo Pêcheur qui y présente cet été son nouveau spectacle humoristique. C'est maintenant l'heure de l'actualité culturelle valdoisienne. L'école de musique, de danse et de théâtre de la ville de Soisy-sous-Montmorency présente du 16 au 20 mars 2022 la 12e édition de son festival de la voix. Pour en savoir plus et réserver, vous pouvez vous rendre sur le site ecmuda.fr, qui est le site de l'école de musique et de danse de Soisy. Dans plus d'une dizaine de villes du Val d'Oise, du 8 au 27 mars, les langues et les instruments se succéderont dans un déluge de rythmes endiablés et de mélodies envoûtantes, servies par les meilleurs artistes de la scène française et internationale dans le cadre du festival Pass World 2022, dont IDFM est partenaire. Le festival collabore avec Bakary Traoré et Jérôme Joannick à la création d'un spectacle mettant en scène un conte africain plein de rebonds. Bakary vous contera les aventures du gros singe, du chat ou du bouc au son de la kora, du balafon et de la calebasse de Jérôme. Cette création à destination des médiathèques du territoire contentera un public familial à partir de 6 ans. Retrouvez ce conte africain musical le mercredi 16 mars à 14h à la bibliothèque intercommunale de Survilliers, le samedi 19 mars à 16h30 à la médiathèque intercommunale Éric Orsena de Villiers-le-Bel, le mercredi 23 mars à 10h30 à la Maison des associations d'Écouen et ce même jour à 15h à la salle polyvalente de Juilly. Le spectacle est gratuit et il vous suffit de réserver vos places. Dans le cadre de ce même festival musical, la ville d'Arnouville accueille le groupe multiculturel La Daniva le vendredi 18 mars à 20h45 à la salle L'Essentiel. Pour réserver vos places de ce concert à petit prix, 7 euros seulement, rendez-vous sur l'espace billetterie en ligne billetterie.arnouville95.fr. Toujours à Arnouville, l'événement dédié à la littérature jeunesse intitulé le Festival Livre comme l'air revient pour une nouvelle édition du mardi 8 mars au samedi 9 avril 2022 sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Divers événements sont prévus, dont des spectacles jeunesse les mercredis. Et le samedi 9 avril de 10h à 19h, vous pourrez accéder au salon et rencontrer Philippe Jalbert, auteur jeunesse, pour une séance de dédicace. Au centre Cyrano de Bergerac de Sannois, le jeudi 17 mars, retrouvez dès 20h en accès libre votre soirée jazz. À la galerie de Mézières, à partir du 15 mars, Marianne Levexier vous propose son travail en peinture, sculpture et gravure. La galerie de Mézières se situe 16 avenue de l'Europe, à Aubonne. Et enfin à Aisanville, notez que le théâtre de l'Union Familiale recevra le 2 avril prochain le groupe Jazz Tribu pour un concert qui ravira petits et grands. Il n'est pas nécessaire de réserver. Le prix des places est modeste. Il est de 10 euros pour les adultes, 6 pour les moins de 18 ans et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. C'était Culturez-vous, animé par Nolwenn. Je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'émission Empreinte sur IDFM FM Radio. Je vous dis à samedi prochain, 10h30, sur le 98 de la bande FM.